Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Channel 9. Nous allons voir durant cette vidéo comment effectuer la configuration initiale de votre Windows Server 2016 Technical Preview 4 en mode Core. Après ouverture de session sur votre Windows Server 2016 TP4 en mode Core, donc vous arrivez sur votre espace de travail représenté par une simple invite de commande. Donc cmd.exe qui représente en fait l'interface utilisateur principale depuis laquelle vous devez effectuer toute la configuration nécessaire. Vous pouvez en fait également lancer Windows PowerShell. Ce n'est pas une nouveauté 2016 TP4, c'est quelque chose qui existe même avec le mode Core 2012 et 2012 R2. Vous pouvez simplement faire un start Windows PowerShell et donc lancer Windows PowerShell. Utiliser les commandelettes qui vont bien pour ajouter des rôles, supprimer des rôles, configurer votre serveur, etc. Donc l'objectif de cette vidéo est de voir l'ensemble des outils en ligne de commande que vous devez connaître pour apporter cette configuration à votre serveur. Sachez que dans notre cas, c'est une VM, comme vous pouvez le voir, intitulée Escort TP4. Qui a comme guest OS un Windows Server 2016 TP4 fraîchement installé. Si je saisis hostname, vous pouvez constater que mon serveur a comme hostname donc les noms attribués par l'assistant d'installation, donc c'est win-xx, etc. Donc nous allons justement commencer par renommer notre machine et configurer les cartes réseau et effectuer toutes les tâches post-déploiement du serveur Core 2016 TP4. Alors pour renommer la machine, donc l'outil à utiliser est netdom, donc netdom.exe, dans le contexte rename computer, suivi soit de localhost pour indiquer la machine locale, soit deuxième option computer name, donc la variable d'environnement computer name qui stocke donc dans notre cas le nom de la machine, le nom actuel de la machine, ou encore utiliser donc le nom actuel win. Pardon, win-, etc., etc. Donc, ça reste l'option, on va dire, c'est pas l'option la plus rapide. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours utiliser computer name. Et par la suite, il faut spécifier le paramètre new name, deux points, suivi du nouveau nom de votre serveur. Donc, je vais le nommer simplement comme la VM, donc Escort TP4. Et je clique sur Entrée. Vous avez ce message d'avertissement qui s'affiche, qui vous indique que si le serveur en fait office d'un rôle particulier comme la CA, donc l'autorité de certification, vous risquez d'avoir des problèmes de fonctionnement. Ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est un serveur fraîchement installé, donc je peux y aller. Je saisis O comme oui pour confirmer l'action. Et comme vous pouvez le voir, l'ordinateur doit être redémarré pour que ce renommage soit pris en compte. Donc là, deux options, soit vous mettez PowerShell suivi de la commandelette rename computer, soit vous utilisez l'outil shutdown avec le paramètre R pour restart, F comme force et T comme time, et en spécifiant 0 pour effectuer un redémarrage immédiat. Donc l'ordinateur redémarre, comme vous pouvez le voir. Donc après redémarrage, vous êtes invité à vous authentifier sur le serveur. Donc je saisis simplement le mot de passe qui va bien. Et nous allons ressaisir hostname pour vérifier si le nom de serveur configuré précédemment a été pris en compte. Et c'est le cas. Comme vous pouvez le constater, le serveur porte le nom Escort TP4. Nous allons cette fois-ci utiliser l'outil net.exe pour résider le password administrateur s'il y a besoin. Si par exemple vous travaillez avec un hébergeur, un prestataire qui vous livre des VM ou des OS ou des masters ou des choses comme ça, vous pouvez être amené à résider le password fourni par défaut. Et donc c'est une opération qui peut se faire via l'outil net.exe dans le contexte user. Et par défaut, comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs, l'utilisateur authentifié, c'est l'administrateur local. Vous pouvez toujours saisir que NetUser et vous faites entrer pour vérifier la liste des comptes locaux. Je rappelle que c'est une machine fraîchement installée, donc elle n'est pas encore dans le domaine. Donc on parle uniquement des comptes locaux. Et comme vous pouvez le voir, on a le compte administrateur, le default account et le compte invité. Donc mon compte principal administrateur local, c'est administrateur. Donc si je souhaite résider sans password, donc net.exe dans le contexte user suivi du compte dont le password doit être réinitialisé et suivi de étoile pour éviter de saisir le mot de passe en clair. Je clique sur Entrée et je suis invité à saisir un nouveau password. Donc là, vous voyez pas en fait ce que vous renseignez comme password, mais c'est mémorisé quand même. Donc vous saisissez le password, vous le confirmez, vous cliquez sur OK. Donc si l'opération a été prise en compte, donc le message suivant est retourné. Je vais simplement saisir un logoff pour déconnecter ma session. Et je me reconnecte. Donc je vais faire un Ctrl Alt Sup. Et je vais cette fois-ci saisir ou vérifier simplement le nouveau password. Et donc là, ça passe. Donc voilà, nous venons de renommer l'ordinateur et résider le password du compte administrateur local. Cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons travailler sur la partie réseau et particulièrement les cartes réseau du serveur, parce que vous savez, par défaut, une VM ou un GuestOS sans configuration réseau ne peut communiquer avec aucun hôte sur le réseau, ne peut être joint à un domaine AD, ne peut communiquer avec les autres machines, que ce soit poste de travail ou serveur du réseau. Donc il faut obligatoirement lui réserver une adresse IP qui va bien, donc statique généralement sur les serveurs de production, avec une passerelle. Donc c'est des informations que vous devez connaître au préalable et également les adresses des serveurs DNS. Donc nous allons utiliser pour ceci donc l'outil NetSH, qui est l'outil de shell réseau de Microsoft. Je vais faire un CD backslash pour libérer de l'espace et être positionné sur ces deux points. Donc j'utilise NetSH suivi de interface et je vais utiliser les commandes show interface. Le but c'est de simplement visualiser les cartes réseau connectées à mon serveur. Comme vous pouvez le voir, une seule carte réseau est disponible. Elle porte le nom Ethernet. Et donc moi, supposons nous avons des conventions de nom même sur les cartes réseau virtuel ou physique sur nos serveurs physiques. Donc on évite le nom Ethernet et on nomme les cartes privées ou private to LAN au lieu de Ethernet et WAN au public pour les cartes, les interfaces WAN, on va dire, qui font que nos serveurs sont exposés à Internet ou à l'extérieur d'une manière générale. Donc nous allons utiliser l'outil NetSH cette fois-ci pour renommer le nom de la carte en private par exemple, donc de Ethernet à private. La commande à utiliser est la suivante, donc NetSH interface set interface name, donc le nom actuel, new name, et le nouveau nom de ma carte. Je vais la nommer private par exemple et je clique sur Entrée. Je vais simplement relancer la commande show interface pour vérifier que ce nom a bien été pris en compte. J'en profite pour vous donner une petite astuce liée à l'outil NetSH. En fait, l'outil NetSH ou les paramètres qui sont associés à cet outil-là, en fait, ils peuvent être utilisés en mode abrégé comme sur les routeurs et les équipements d'une manière générale Cisco, si vous avez eu l'occasion de travailler dessus, comme le show configuration terminal, vous pouvez faire simplement un sh config tr ou ter pour utiliser les mêmes commandes. NetSH, il fonctionne de la même manière. Je peux faire un NetSH, int pour dire interface, sho pour dire show et interface pour dire interface et ça me retourne le même résultat qu'ici. Et donc comme vous pouvez le voir, le nom de ma carte est désormais privé au lieu de Ethernet. Très bien. Donc nous allons cette fois-ci configurer cette carte private pour mettre une adresse IP statique, configurer le masque de sous-réseau qui va bien, la passerelle ainsi que les serveurs DNS de notre réseau. Nous allons continuer à utiliser l'outil NetSH, toujours dans le contexte interface, étant donné que nous travaillons sur l'interface réseau du serveur. Par contre, cette fois-ci, il faut spécifier IPv4 parce que nous allons configurer l'IPv4 sur notre serveur. Suivi de cette adresse name, vous pouvez toujours utiliser adresse où vous mettez ADD, NAM. Donc vous pouvez toujours abréger vos commandes. Donc cette adresse name, quelle adresse? Eh bien c'est la private. Ensuite il faut spécifier la source de la config TCP/IP de la machine. Là, vous avez deux options, soit statique ou DHCP, pardon. Donc, si vous avez un DHCP disponible sur le réseau et que ce serveur doit être configuré en tant que client DHCP, il suffit de spécifier égal DHCP, donc la source, c'est DHCP. Et vous faites entrer, votre serveur va essayer de contacter un serveur DHCP sur le réseau pour récupérer sa configuration TCP/IP. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la config statique. C'est le cas le plus adopté, on va dire. C'est le cas de figure le plus utilisé parce que généralement, les serveurs de production, c'est des serveurs qui fournissent des services. Donc, c'est des services qui sont accessibles par des utilisateurs et des devices du réseau depuis l'externe. Et donc, ils sont référenciés avec une adresse IP fixe qui ne change pas généralement. Donc, c'est le scénario sur lequel on va partir pour configurer une adresse IP statique. Donc, source égale statique. Ensuite, il faut spécifier adresse. Et vous mettez l'adresse IP qui va bien. Donc là, je suis sur un subnet 10.110. 10.100.10.0. Je vais attribuer comme adresse IP .20. Ensuite, vous mettez masque et le masque qui va bien. Donc là, je suis sur un masque modifié sur slash 24, même si l'adresse fait partie de la classe A de l'adressage IP. Mais vous pouvez partir sur ce qu'on appelle un masque modifié. Donc c'est sur 24. Et ensuite, gateway. Et vous communiquez l'adresse IP de la gateway, donc .1. Et vous faites entrée. Donc la commande a été prise, il n'y a pas eu de message d'erreur particulier, donc c'est-à-dire que la configuration est correcte. Et la carte private a désormais comme adresse IP 10.20, donc sur 24, avec une gateway 10.1 à la fin. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est configurer l'adresse IP d'au moins un DNS serveur du réseau pour la partie jonction au domaine. Vous savez, si la machine n'arrive pas à localiser un DNS serveur, elle ne pourra résoudre votre nom de domaine et donc impossible de joindre ce serveur dans un domaine AD. Donc, il faut configurer obligatoirement au moins une entrée DNS, donc un serveur DNS primaire. Et pour ce faire, nous allons utiliser la commande suivante, NetSH interface IPv4. Et nous allons utiliser add DNS server name. Donc, je mets le nom de ma carte pour indiquer que cette entrée DNS sera configurée sur cette carte. Par la suite, adresse. Donc, mon serveur DNS du réseau, c'est mon premier DC simplement, qui a comme adresse IP 10.10 à la fin. Par contre, là, on a un paramètre supplémentaire qui s'appelle index. Index, donc index simplement les valeurs qui sont associées à ce paramètre, et eh bien c'est des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et l'index, vous l'utilisez pour indiquer, on va dire, l'ordre de classement de vos entrées DNS ou l'ordre de priorité en fait. Index 1 pour dire DNS primaire, index 2 pour di dire DNS auxiliaire, index 3 pour dire DNS auxiliaire numéro 3, etc. Donc étant donné que c'est notre première entrée DNS, c'est notre serveur DNS primaire, donc l'index égale à 1 tout simplement. Je clique sur Entrée. Là, on va dire le résultat va mettre un peu plus de temps pour être affiché. Pourquoi? Parce que le serveur, en fait, suite à l'exécution de cette commande, il va simplement essayer de localiser le serveur DNS 10.100.10.10. Donc, s'il le localise, donc il met un certain temps. Donc, c'est des requêtes DNS qui sont envoyées et reçues entre ce serveur et un serveur DNS. Si la communication passe, donc aucun message n'est retourné et vous avez un simple retour à la ligne, comme c'est indiqué ici. Si maintenant ce serveur n'arrive pas à localiser le serveur DNS spécifié, à savoir 10.10.100.10.10, donc dans notre cas, eh bien, ce qui se passe, il vous affiche un message d'erreur vous indiquant que impossible de localiser ce serveur DNS, mais l'entrée, elle est quand même configurée sur votre carte réseau. Nous allons vérifier tout ça ensemble tout de suite. Je vais simplement faire un ipconfig, pardon, ipconfig slash all. Je vais faire entrer et je note les informations que je viens de configurer via l'outil NetSH, à savoir l'adresse IP 10.10.20, le masque qui va bien, la passerelle 10.1 et surtout le serveur DNS 10.100.10.10. Donc ces informations ont été prises en compte. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est configurer la partie firewall, si ça vous intéresse, parce que généralement, quand vous êtes dans des environnements, on va dire, de haute sécurité, généralement, les sociétés, en fait, partent surtout sur du firewall physique. Au lieu du firewall soft de Microsoft, malgré la puissance de celui-ci, le nombre de fonctions avancées qu'on peut mettre en place. Mais moi perso, tous les clients chez lesquels j'interviens, donc ils partent sur du firewall physique. D'abord parce que c'est une solution qui peut fonctionner pour tout le réseau. Si j'ai un firewall 2003 et un firewall 2016 ou un 2012 R2, donc vous savez, on n'a pas les mêmes policies et on n'a pas les mêmes règles entrantes et sortantes. Donc pour avoir un parc homogène, donc on part sur une seule solution physique qui prend en charge tous les OS du réseau, quelle que soit la version ou le service pack, etc. Donc, tout ça pour vous dire que dans la plupart des cas, en fait, on désactive le firewall Windows parce que simplement on a des firewalls derrière et nos réseaux sont sécurisés, nos serveurs sont situés à travers 2, 3, 4, 5 firewalls, etc. Donc, aucune crainte et on peut se permettre de désactiver le firewall Windows. Donc, NetSH, ADV, Firewall, Show, All, Profiles. Donc vous avez le résultat suivant qui est affiché avec les profils du firewall, avec surtout les statuts à chaque fois, donc les états de chaque profil du pare-feu Windows. Donc vous voyez que par défaut tout est activé et vous avez quelques stratégies donc avec les états donc block inbound, low outbound. Donc là par exemple tout ce qui est flux entrant ou communication entrante c'est bloqué par défaut, tout ce qui est communication sortante donc c'est autorisé par défaut. Des fois nous avons certaines règles par défaut qui bloquent le fonctionnement de notre serveur core et donc ce qu'on fait eh bien on désactive complètement le firewall Windows en saisissant la commande suivante, donc netsh adv firewall set all profiles state off. Donc si on traduit ça, donc on utilise le NetSH dans le contexte du firewall avancé pour définir sur tous les profils du firewall l'état, donc state, le statut ou l'état off, donc pour éteindre ou pour désactiver complètement les statuts des firewalls. Je vais simplement réutiliser la même commande pour faire un show all profiles pour constater donc inactif, inactif, tous les profils sont désactivé et donc aucun blocage ne peut avoir lieu entre vos serveurs et ce serveur core ou depuis ce serveur core vers d'autres machines du réseau, que ce soit des serveurs ou des postes de travail. Donc le serveur core généralement se distingue par l'absence de la couche graphique. Comme vous pouvez le voir, nous avons aucune couche graphique de disponible, aucune console, il n'y a plus de barre des tâches, il n'y a plus d'interface moderne, menu démarrer, tous les snap-in associés au rôle, au serveur, l'observateur d'événements, l'outil Perfmon, etc. Par contre, certains outils graphiques restent disponibles sous le mode core et notamment des outils qui vont vous permettre de configurer la date et l'heure, les paramètres régionaux, etc., etc. Comme par exemple l'outil timedate.cpl. Donc CPL pour Control Panels, donc c'est des outils du panneau de config qui vous permettent de continuer à utiliser quand même certains outils graphiques comme celui-ci, date et heure, qui me permettent par exemple de changer la date, l'heure, de spécifier un fuseau horaire, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez spécifier des horloges supplémentaires ou encore modifier des paramètres on va dire, la partie source de temps depuis laquelle votre serveur doit se synchroniser. Vous pouvez également utiliser l'outil intl.cpl, l'outil qui vous permet de configurer les paramètres régionaux, notamment le format qui correspond à la langue d'affichage, le format de la date, etc. Localisation, administration, donc des options liées aux paramètres régionaux, donc via ces outils graphiques. Vous pouvez également utiliser des outils comme le sregedit.wsf. C'est plutôt un script, pas un outil, qui regroupe un certain nombre de paramètres qui vont sûrement vous intéresser. Je vais changer de couleur pour séparer les parties. Donc, dans ces deux points, en fait, pardon, dans Windows System 32, En fait, vous avez une sorte de script qui regroupe pas mal de paramètres qui vont vous intéresser. Ce script-là, en fait, il regroupe des paramètres comme les paramètres liés à Windows Update, comme des paramètres qui peuvent vous aider à configurer les mises à jour automatiques, leur planification, etc. Activer ou pas la gestion via bureau à distance, activer ou pas les communications via IPsec, etc. Donc la syntaxe d'utilisation de ce script est la suivante. Il faut d'abord utiliser l'exécutable C script avec donc suivi du nom du fichier WSF, donc qui s'appelle scregedit, si je me rappelle bien. Voilà, point WSF. Maintenant, pour connaître l'ensemble des paramètres que vous pouvez configurer via cet outil, il suffit de faire un slash point d'interrogation. Et là, vous arrivez sur un menu d'aide. Et là, il suffit de lire simplement. Donc, vous avez la première partie mise à jour automatique. Vous pouvez utiliser le slash V tout de suite après le scregedit pour connaître les paramètres actuels. Vous pouvez à tout moment spécifier le chiffre 4, donc suivi de slash AU, pardon, comme automatic update. Suivi du chiffre 4 pour activer les mises à jour automatiques ou chiffre 1 pour désactiver les mises à jour automatiques. La gestion via bureau à distance, donc AR, pour Administration Remote, si je me rappelle bien. Donc slash V pour connaître les paramètres actuels, 1 pour activer la gestion via bureau à distance, 0 pour activer, 1 pour désactiver. Pareil pour la surveillance de la sécurité IP, pour les services SRV DNS, donc pour gérer la partie priorité. Pardon, etc., etc. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser AU Automatic Update slash V pour connaître simplement les paramètres actuels. Donc l'outil me dit qu'aucune valeur est définie. Donc par défaut, ce n'est pas désactivé et ce n'est pas non plus activé. Donc les mises à jour automatiques. Ce que je vais faire, je vais simplement mettre 4 pour activer les mises à jour automatiques. Donc systématiquement, il y a une écriture sur la base de registre qui est faite pour définir des valeurs et donc activer ce service-là, donc la récupération des mises à jour automatiques d'une manière automatique. Je vais par la suite utiliser le mode AR pour activer la gestion via bureau à distance et je clique sur Entrée. Donc tout ça peut se faire via l'outil scregedit. Une partie importante aussi, c'est l'activation de votre Windows. Et ça se fait principalement via l'outil SLMGR, Software Licensing Manager, donc qui vous permet de visualiser l'état de la licence de votre serveur, mais aussi de spécifier une clé de produit et de l'activer par la suite. Les commandes que vous devez connaître, c'est slash DLI pour détail license, donc pour avoir les détails concernant votre licence. Donc là, vous pouvez voir que le statut de la licence, on est en mode notification. Et donc le canal, on va dire, le canal d'obtention de l'image de notre serveur, donc l'image Windows Server, c'est un canal détail. Donc ce n'est pas une image Mac ou une image KMS. Donc il n'y a aucune clé KMS au Mac qui n'a été spécifiée. C'est simplement une image, une audit du commerce. Mais moi, je l'ai récupérée. Donc depuis le site de le centre de téléchargement de Microsoft, donc c'est normal que c'est Retail Channel. Donc je clique sur OK. Si par la suite j'aimerais avoir plus d'infos, donc je peux faire un DLV. Et donc là vous avez plus d'informations, notamment sur la date de fin d'évaluation, sur la raison de la notification, etc., etc. Clé de produit partiel, etc. Nombre de réinitialisation pardon, de la référence, il nous reste 1000 réinitialisations, on est en mode d'évaluation. Vous pouvez à tout moment faire un slash IPK suivi de votre clé de produit, donc sur 5 blocs, tac tac, et vous mettez, voilà, suivi de entrée. Donc là, il va mouliner, il va nous dire que la clé n'est pas valide, c'est tout à fait normal. Mais si vous disposez d'une clé valide, donc vous utilisez SLMGR slash IPK. Install product key suivi de la clé de produit. Une fois installé, il suffit de faire un slash ato. Vous utilisez les slash ou les tirets, c'est la même chose. Donc slash ato pour activer automatiquement votre serveur. Par contre, il faut noter que pour utiliser ce paramètre, Il faut que votre serveur soit connecté à Internet, parce que c'est de l'activation auprès de, des serveurs d'activation de Microsoft. Si maintenant votre serveur a été installé avec une clé KMS client, donc il faut que votre serveur KMS soit joignable sur le réseau depuis ce serveur-là. Donc c'est les commandes que vous devez connaître, slash DLI pour avoir un minimum d'infos, DLV pour avoir des licences détaillées, surtout si vous avez une licence en volume, IPK pour installer la clé de votre la clé de produit de votre serveur et puis ATO pour activer votre serveur. Maintenant que nous avons configuré tout ça, on peut par exemple joindre notre machine au domaine. J'ai un serveur Technical Preview 4 graphique disponible sur le réseau, pardon, qui fait office de contrôleur de domaine avec un domaine qui s'appelle VLAN.lab, pardon, VLAN.lan. Et nous allons essayer de joindre notre machine au domaine. Alors, comment ça marche? On utilise principalement l'outil NetDOM. Donc, c'est un outil qui est lié au service de domaine ADDS, donc principalement à l'Active Directory. Ça vous permet non seulement de joindre des machines au domaine, mais renommer un contrôleur de domaine, renommer un serveur, comme on a pu le voir au début de cette vidéo. Ça vous permet de vérifier des relations d'approbation, les secure channels entre deux forêts, donc interforêts, créer des relations d'approbation, les tester, etc. Donc, ça permet de faire plein de choses. Pour en savoir plus, il suffit de faire un slash point d'interrogation et vous voyez tous les modes dans lesquels cet outil peut être exécuté. Résider un canal sécurisé dans le mode trust, donc relation d'approbation. Renommer un ordinateur, supprimer un ordinateur, faire une requête, interroger, récupérer des infos, join, donc c'est la commande que nous allons utiliser pour joindre ce serveur au domaine, faire un move, déplacer un ordinateur, etc., etc. Voilà, donc je vais utiliser, pardon, hop, l'outil NetDOM pour faire cette fois-ci join. Donc NetDOM join quoi? Bah, l'ordinateur local. Donc comme je vous ai dit, la best practice que je vous donne, c'est toujours utiliser computer name, comme ça vous n'êtes pas embrouillé. Donc NetDOM join, donc qu'est-ce qu'on va joindre? Bah, l'ordinateur local. On va le joindre où? Bah, vers notre domaine qui s'appelle VLAB.lan, via quel compte utilisateur ou avec quel credentials nous allons le joindre. Nous allons utiliser donc userd, il faut toujours ajouter d, donc userd pour dire domain user ou user domain. Je vais simplement utiliser mon compte administrateur du domaine. Ensuite, soit vous mettez pd ou password d, donc password du domaine. Je vais mettre étoile et je vais mettre reboot. Donc, vous savez, la jonction domaine, ça nécessite un reboot pour que ça soit pris en compte. Donc, dès que j'aurai spécifié mon mot de passe, parce que j'ai mis étoile pour éviter de saisir mon password en clair, je vais saisir mon mot de passe. Dès que la jonction est faite, eh bien, mon serveur reboot au bout de 5 secondes. Je clique sur Entrée, taper le mot de passe associé à l'utilisateur du domaine. Bah, je saisis simplement le mot de passe. Après redémarrage, je me rends sur mon DC. Je vais simplement lancer la console DSA, donc utilisateur et ordinateur AD. Et je vais sur mon OU démo channel 9. Et là, j'ai mes trois OU, trois sous-OU, computer, servers, and users. Donc, moi, ce que je vais faire donc systématiquement après la jonction d'une machine au domaine, donc par défaut, tout va dans l'OU par défaut computers, et notamment mon serveur core. Donc suite à la jonction, je double-clique dessus, système d'exploitation, comme vous pouvez le voir, 2016 TP4. Moi, ce que je vais faire, je vais simplement faire un move, donc clic droit déplacer, je vais le placer dans ma sous-OU serveurs ici. Il est là. Dans users, j'ai mon compte HKAdmin, qui est un administrateur du domaine. Voilà, il est membre du groupe de sécurité admin du domaine. Et c'est ce compte-là que je vais utiliser pour m'authentifier sur mon serveur core. C'est plus le compte administrateur local. On n'est plus dans une utilisation workgroup, mais je vais désormais pouvoir m'authentifier avec mon compte admin du domaine. Donc après jonction au domaine, donc vlab.lan, nous sommes censés nous retrouver par défaut sur notre domaine vlab.lan. Donc normalement, le mot de passe que je suis censé saisir, c'est celui de l'administrateur du domaine. Je peux toutefois Donc, cliquez sur échappe. Donc, comme indiqué ici, je clique sur échappe et je reclique sur échappe pour saisir un autre utilisateur. J'ouvre une petite parenthèse. Parmi les nouveautés donc, du mode Core, 2016 TP4 pour l'instant. Après, on verra sur la première version finale, mais j'imagine que ça va être la même chose. Là, vous avez dû normalement constater le manque de l'absence en fait de l'écran d'authentification. Il faut savoir que sous Windows Server Core 2008, 2008 R2, 2012 ou encore 2012 R2, malgré le fait que votre OS exécute l'option d'installation Core, mais vous avez quand même l'écran graphique en fait avec les options d'authentification. Là, c'est plus le cas. Microsoft, ils ont encore fait mieux en fait en supprimant cette partie. Donc là, on est vraiment en mode CLI, donc en mode command line. Il n'y a plus vraiment de couche graphique. Et donc, même ces étapes d'authentification doivent se faire depuis l'invite de commande, comme vous pouvez le voir, et principalement depuis l'exécutable logon UI, donc User Interface. Et donc là maintenant, si je souhaite switcher entre un utilisateur et un autre, donc je pars sur de l'échappe. Donc là, supposons password. Donc vous arrivez sur cet écran. Là, comme vous pouvez le voir, c'est le compte administrateur qui est censé s'authentifier, mais je ne veux plus utiliser le compte administrateur ou je n'ai pas de mot de passe de l'administrateur du domaine. Ou encore une fois, la politique interne de sécurité exige la désactivation ou le renommage de ce compte, eh bien, on le bypass. J'utilise mon propre compte HKAdmin qui est aussi domaine du administrateur du domaine. Comment je fais par contre? Donc, je fais deux fois Escape, donc échappe pour choisir la méthode d'authentification. Donc là, il ne propose que mot de passe, mais vous pouvez aussi activer la partie carte à puce. Et je refais, comme indiqué ici, sélectionner une option de connexion pour administrateur ou appuyer sur la touche échappe pour changer d'utilisateur. Je reclique sur échappe et je sélectionne autre utilisateur. Et là, je vais simplement saisir HKAdmin avec le password qui va bien. Connectez-vous à VLAB. Comment me connecter à un autre domaine? Donc pour l'instant, je me connecte à VLAB. Entrée. Et j'ouvre ma session donc sur le serveur Core sans problème. Donc là, c'est une toute première connexion. Donc vous avez plein de DLL qui sont appelés, vous avez la génération de votre profil, l'écriture sur le ntuser.date, etc. Mais je finis par arriver sur mon profil HKAdmin sous Users. Donc ce que je vais faire, voilà, juste pour changer un peu, je vais faire un echo user domain, juste pour m'assurer que je m'authentifie bien sur mon domaine, donc VLAB, et je vais refaire un coup logon serveur. Donc quel DC m'authentifie juste par curiosité? Eh bien c'est le DC 01 TP4, donc c'est mon DC du réseau, et tu vois bien. Maintenant, notre serveur, il est dans le domaine. Il s'appelle Escort TP4, il a la bonne configuration TCP/IP qui va bien, il n'y a plus de firewall. D'ailleurs, on peut faire un test pour la gestion bureau à distance que nous avons activé tout à l'heure. Donc, je vais simplement ouvrir une session sur mon DC graphique et lancer un TSE directement dessus pour voir si la gestion via bureau à distance a bien été prise en compte. Donc, depuis mon DC, je vais simplement lancer l'outil MSTSC slash V, si vous connaissez pas, Escort TP4 entrée. Donc si la communication passe entre les deux, normalement ce qui est logique, si je fais un ping, je ping quand même juste pour être sûr, ça répond bien. Ping Escort TP4, ça ping bien sans problème. Je peux même aller loin et faire un telnet Escort TP4 3389, quoique oui, le telnet n'est pas activé, donc on peut DISM vite fait online, pardon, enable feature telnet client entrée pour installer la fonctionnalité. Voilà, si vous connaissez pas comment la rajouter directement, par contre il faut être administrateur. Donc juste pour s'assurer, parce que vous pouvez avoir ce pop-up et qu'il y a des soucis derrière, pas de problème. Hop. Donc, Telnet Escort TP4 sur le port 3389 qui correspond simplement au RDP. J'enlève ça bien évidemment. Tac, écran noir, les flux sont ouverts. Je ferme ça. Bim. Et j'utilise même mon compte pour être sûr. VLAB avec le password qui va bien. et je vais ouvrir une session bureau à distance sur mon serveur Core, juste pour m'assurer que mes tâches post-déploiement ont bien été prises en compte. Voilà, une fois connecté, donc vous voyez cet écran-là. Il faut faire la distinction parce que souvent c'est bête, mais là, si vous laissez ça comme ça, vous avez l'impression d'être sur le DC, donc sur une autre VM tout simplement, mais vous êtes dans un mode core, donc il faut séparer les deux. Vous voyez bien que ça, c'est la principale, c'est ça la sous-couche, on va dire Remote Desktop, donc Escort TP4. Je vais simplement réduire pour voir ça comme une fenêtre. Et là, je suis bien connecté via bureau à distance sur mon DC. J'ai même pas besoin de lancer la VM console, je peux travailler directement dessus, donc via bureau à distance. Donc, ce qui prouve que notre configuration a bien été prise en compte. Donc je vais en profiter étant donné qu'on est déjà sur le serveur, donc je vais travailler comme ça. Avant de terminer, j'aimerais vous faire part d'un outil. C'est simplement l'outil sconfig. Pardon, c'est un outil fourni par Microsoft et natif dans les serveurs Core. C'est un outil magique en fait qui regroupe pas mal d'options de configuration et qui a été simplifié par Microsoft pour aider justement les IT à effectuer les tâches post-déploiement du serveur Core rapidement en utilisant des numéros d'options. Voilà, petite démo pour que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. L'utilisation, c'est simple. Il faut saisir un sconfig bêtement depuis l'invite de commande ou aussi depuis PowerShell. Donc, c'est reconnu aussi depuis PowerShell parce que vous savez, depuis Windows Server 2012, PowerShell, heureusement, reconnaît désormais l'ensemble des outils et commandes qu'on pouvait exécuter d'habitude sur l'invite de commande. Voilà, donc je saisis sconfig et vous passez en mode sconfig et l'outil ressemble à ça en fait. Vous avez des options, donc un domaine au groupe de travail. Vous avez déjà en fait, c'est un outil pour moi de reporting d'abord parce qu'il vous remonte pas mal d'infos. Vous pouvez voir que le serveur est déjà dans un domaine qui s'appelle vela.lan, son hostname est ça, l'administration à distance est activée, les Windows Update est activé donc avec le mode automatique, le bureau à distance est activé pour tous les clients. Pour tous les clients signifie que l'option NLA n'est pas activée. Donc la NLA, juste j'ouvre une petite parenthèse pour les gens qui connaissent pas. La NLA La NLA est simplement un mode d'authentification en fait pour les clients bureau à distance. NLA pour Network Level Authentication, donc c'est un niveau d'authentification réseau. Ça veut dire quoi un niveau d'authentification réseau? Ça veut dire que vous devez être déjà un Windows XP SP3 ou supérieur, sinon vous n'êtes pas un client NLA, donc c'est pas supporté. Et le NLA vous permet de sécuriser votre infra RDS d'une manière générale ou n'importe quel serveur accessible via bureau à distance. La NLA consiste simplement à valider vos credentials via le protocole CRED-SSP avant de vous créer une session bureau à distance. Alors qu'avant, sans NLA, n'importe quel client qui pourrait être un robot, un programme malveillant qui pouvait diffuser un script avec 1000 demandes de connexion bureau à distance, et eh bien le serveur TSE créait tout de suite 1000 connexions bureau à distance sans valider les credentials de l'utilisateur distant, ce qui pouvait être une attaque DOS, donc de déni de service. Alors que si vous êtes NLA, on valide d'abord vos credentials et par la suite on vous crée une session, ce qui permet d'éviter ce genre d'attaque. Donc voilà, mais par défaut, via le sregedit, l'outil qu'on a utilisé avec le contexte AR, donc il accepte tout le monde. Mais c'est une option que vous pouvez changer, donc soit via l'option 7, soit via la clé de registre. Vous pouvez via l'option 8 configurer les paramètres réseau, la date et l'heure, etc. Petite démo, je souhaite simplement désactiver le bureau à distance. Donc je saisis, vous voyez, vous n'avez aucune commande à lancer, vous devez connaître aucun outil au préalable, aucune compétence technique en matière de code, d'outils en ligne de commande n'est demandée. Il suffit, pardon, d'utiliser des numéros d'options et suivre l'assistant. Donc je saisis 7 pour être sous le mode bureau à distance. Et vous avez A pour activer ou D pour désactiver le bureau à distance. Si vous laissez vide, donc c'est annulé, vous annulez l'opération. Je vais saisir D pour désactiver le bureau à distance. Notez que le programme appelé, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, c'est le C script avec le sregedit pour désactiver votre bureau à distance. En fait, il fait notre travail, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a été déconnecté. C'est tout à fait normal parce qu'on a désactivé le bureau à distance. Je clique sur OK. C'était fait exprès, donc je refais la même commande. Pardon. MSTSC. J'essaie de rétablir une connexion bureau à distance. Et là, vous pouvez espérer parce que ça va rester sur démarrage de la connexion à distance. Aucun flux n'est ouvert. Je vais faire un Telnet Escort TP4 sur le port 3389, pardon. Voilà, et vous pouvez voir connexion à distance. Impossible d'ouvrir la connexion parce que les flux sont simplement ouverts, fermés, pardon. Je reviens donc en mode console sur mon serveur Core. Donc vous voyez, je me connecte en tant que HK admin et là je récupère l'accès à mon serveur. Donc désactivation du bureau à distance, ça a été désactivé, il n'y a pas de problème. Après voilà, n'hésitez pas à tester les autres options, cliquez sur 8 pour configurer la carte réseau, revoir ou remodifier une option, date et heure 9, etc. C'est vraiment un jeu d'enfant, il suffit de fournir des numéros d'options ou de sous-options. Et quand vous aurez fini, bah, vous cliquez sur 15 pour quitter et revenir à la ligne de commande, donc le mode standard. Petite astuce avant de vous laisser, si un jour ça vous arrive de fermer la console sans faire exprès, c'est bête, mais j'ai vu pas mal de consultants et d'architectes qui me disent ouais, il faudrait complètement fermer le serveur. Il y en a même qui m'ont dit que c'était catastrophique, qu'il fallait redémarrer le serveur pour récupérer l'accès à l'invite de commande. Alors que c'est faux, il faut pas fermer la session et encore moins redémarrer un serveur. Je vous donne la combinaison de touches CTRL SHIFT plus échappe pour faire apparaître le gestionnaire des tâches. Plus de détails, il s'agit de la première ouverture de cet outil ou premier lancement. Vous allez dans Fichier, exécuter une nouvelle tâche. Il suffit de saisir CMD pour récupérer votre interface utilisateur. Donc voilà, mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces commandes, ces techniques pourront vous être utiles pour effectuer les tâches post-déploiement de votre Windows Server Core 2016 TP4. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à me contacter à hicham.kadiri@hichamsoft.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Channel 9. Getting high all the time, I'd be willing to die. Yeah. Yeah. Oh.